Coração de malandro não bate balança.
Pra lá e pra cá.
Se bater a bobeira, malandro dança.
Malandro não pode dançar.
Coração de malandro não bate balança.
Pra lá e pra cá.
Se bater a...
Eh bien, le bonjour à tout le monde. Nous voici en direct du 48e de rue. On est à l'école Jean Bonijol pour une nouvelle édition, la 14e exactement. Avec le président de l'association Labouart qui organise la manifestation, monsieur Bruno Tamania, bonjour.
Bonjour Ludo.
Nous avons aussi avec nous François Robin qui vient pour représenter le département de la Lozère, tout fraîchement élu. François, bonjour.
Bonjour monsieur Ludo.
Et nous avons une artiste, Chantal Ferrier, qui est avec nous. Bonjour Chantal.
Bonjour.
Alors on va laisser la parole au président. Hein. Vous m'excuserez, monsieur François Robin.
Je note.
Vous connaissez le festival? Vous êtes fraîchement élu.
Ah, écoutez, très peu. J'attends les propos du président pour effectivement, derrière, rebondir.
Une 14e édition. On revient après une année spéciale avec le Covid, hein, à une formule normale. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui va se dérouler pendant ces trois jours?
Bien, enfin, on revient à une formule normale. Normal, après avoir passé une année Covid très compliquée, où nous avions quand même assuré quatre week-ends avec les retenues en 2020. Mais bon, techniquement, c'était très compliqué de pouvoir solliciter autant de gens sur quatre week-ends en quatre mois. Et on est très heureux de pouvoir revenir sur un seul week-end de trois jours, apporter la joie et la bonne humeur dans les rues de Mende.
Alors, on revient à cette formule avec deux sites in et des compagnies off au milieu de la ville, c'est ça?
Exactement. Nous avons deux sites in, même deux et demi, je crois, parce qu'il me semble qu'il y a quand même un petit site d'une compagnie.
Oui.
Oui, hein?
Oui, peut-être, je ne sais pas, moi, je vous pose des questions.
Je pensais que tu étais bien plus informé que ça. Coupure, quand même, coupure, journaliste de ton niveau.
On n'est pas en direct. Ah si, on est en direct, mince. Une flûte. Oui, avec des spectacles, donc on reste spectacle de rue, donc il va y avoir quoi? Du cirque, de la danse, il va y avoir un peu de tout, ça reste
de la danse contemporaine, du cirque, du mime, des compagnies, des pièces de théâtre, de l'acrobatie, pour tout niveau, pour tout public. Et comme d'habitude, les gens vont en avoir plein les mirettes.
Toujours beaucoup de compagnies, je ne sais pas combien exactement, il faudra qu'on les compte après. François Robin, le département de la Lozère, tout fraîchement élu. Alors on m'a dit, eh ben, tiens, appelez François Robin, il est en charge maintenant. Je n'ai pas vu encore les affectations. Non, tu n'es pas... Sport. Mais voilà.
Alors voilà, je fais partie de la commission sport, patrimoine et culture, avec la délégation sport, voilà.
D'accord, donc aucun rapport en fait.
Voilà, okay. Donc je vais vous laisser. Bonne continuation.
Bon, le département, mais il y a la ville aussi, hein, qui aide beaucoup, le département, la région. Alors Aurélie Maillot est prise ce week-end, elle ne sera pas avec nous. On va essayer d'avoir monsieur le maire Laurent Chaud dans le plateau radio de demain. Que ce soit le département ou la ville de Mende que tu connais bien également, François, aider les associations et aider la culture, c'est un leitmotiv sur toute l'année. Hein.
Ouais, tout à fait. Je crois que depuis plusieurs années, depuis voilà, de longues années, on a toujours effectivement soutenu ce monde culturel. Et donc voilà, il n'y a aucune raison pour qu'effectivement ça se passe différemment dans les années à venir. Simplement, voilà, c'est vrai que l'année dernière, en 2020, on a eu une année, comme tu le rappelais tout à l'heure, très particulière, puisque une année avec la crise sanitaire qui a empêché, bien évidemment, tous ces artistes, toutes ces compagnies de pouvoir jouer comme elles auraient aimé le faire, certainement. Même si Bruno l'a rappelé, nous, sur le festival, on a proposé quelques rendez-vous comme ça, où quelques compagnies ont pu jouer. Mais c'est vrai que, bon, comme d'autres secteurs, bien évidemment, mais le monde culturel a énormément souffert, et donc je crois qu'il était tout à fait normal aussi que les collectivités soutiennent ces compagnies, soutiennent les festivals, et ça a été le cas l'année dernière, notamment avec le département de la Lozère, où un fonds d'urgence a été débloqué pour justement pour soutenir les associations qui étaient dans le dur, comme on dit, et puis venir en aide aux structures dont notamment les emplois étaient menacés.
Ça a été compliqué cette année, Chantal, en tant qu'artiste?
Mais finalement, en tant qu'artiste, je n'ai pas joué, mais je trouve que ça m'a permis de créer. Alors finalement, je m'y retrouve parce que j'ai eu du temps pour faire de la collecte de textes, pour écrire et répéter. Mmh. Je serais plutôt contente.
Du coup, sur le spectacle que vous allez présenter sur le 48e ou pas du tout?
Sur ce spectacle-là, et parallèlement, j'ai écrit un roman. Donc...
Ah Tant qu'à faire.
J'ai été productive.
Il vous faut plus de confinement alors, Chantal.
Ouais, j'en réclame.
Alors ce spectacle, vous nous parlez de quoi ?
Alors ce spectacle s'intitule « Ma grand-mère est une sorcière ». C'est un petit clin d'œil. J'y porte la voix des femmes qui m'ont précédée, des mères, des grands-mères. En réalité, je dis « ma grand-mère », mais c'est un « ma » qui est universel. Et je fais intervenir trois textes de Roger Lagrave, un conteur qui était bien connu en Lozère, qui est décédé en janvier, qui m'a donné, disons, son accord pour que je reprenne trois textes quand il était vivant. Et je lui ai dit qu'à ce moment-là, il ne mourrait jamais, puisque j'allais continuer et que d'autres continueraient derrière moi. Et ensuite, j'ai écrit des textes sur les femmes de mon village, ma mère en particulier, et toutes celles qui avaient des sortes de pouvoirs dans l'ombre. Par exemple, la tripoteuse. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une tripoteuse.
On imagine.
Eh bien, vous imaginez mal. Parce que
on n'a rien dit, Chantal.
C'était une laveuse de tripes. C'est un métier qui a disparu depuis que les tripes sont en plastique. La plupart. Ouais. Hein. Il y a encore des gens qui proposent...
Ah nous,
on proposent...
tue le cochon, on nettoie les tripes.
Voilà. Mmh. Mais il y avait une spécialiste pour nettoyer les tripes, donc, qui s'appelait la tripoteuse. Et elle s'appelait Léontine Blanc. Il faut le faire. Hein. Ouais. Pour nettoyer des tripes, il ne pouvait pas y avoir plus blanc que blanc. Ensuite, la rebouteuse, qu'on appelait Rabiaïr en occitan. Donc, celle qui arrête le feu aussi et qui enlève le venin des serpents. Et puis toutes celles qui, dans leur silence et leur résistance, ont permis aux autres femmes, notamment à moi, de parler.
Voilà. Non, c'est intéressant. Donc vous jouez plusieurs rôles au sein de cette
pièce. Oui, ce sont c'est une succession de scènes. Alors je le dis parce que ça démarre, ça se fait avec des pelotes de laine. Bon, c'est symbolique, bien sûr, ce sont les fils qui se tissent. Et je finis avec une belle écharpe colorée, puisque je porte toutes ces femmes. Mais disons que ça démarre par la pelote noire, mais je finis par une pelote dorée. Et ce sont des successions de portraits ou de petites histoires concernant chacune une femme.
Vous êtes seule en scène ?
Je suis seule en scène.
D'accord, on joue tous les rôles. C'est vous qui avez écrit également l'ensemble
oui,
de la pièce ?
Oui, j'ai tout écrit.
C'est bien ça.
Mais ben, c'est ça aussi, gagner sa liberté, son autonomie. Merci les femmes d'avant moi. Mais j'ai été accompagnée, je dois le signaler, par Coraline Houdard, qui fait partie de 1, 2, 3 Soleil, qui m'a accompagnée à la mise en scène et qui a joué le regard.
D'accord, très bien. Seul en scène, un festival comme ça, on ne peut pas être seul en scène. Beaucoup de bénévoles encore cette année, Bruno ?
De plus en plus de bénévoles, oui. On est très très heureux cette année de voir notre nombre de bénévoles augmenter. Là, depuis les 3-4 dernières années, Ça a l'air de bien revenir. Je pense que l'ambiance étant, les gens ont envie de participer à la fête avec nous. Et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris cette année quand Valérie, qui gérait les bénévoles, m'a annoncé qu'on avait dépassé les 80 déjà une semaine avant le festival. Et à la réunion des bénévoles qu'on organise quelques jours avant le festival, on s'est retrouvé une sacrée équipe, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Quoi. Ça fait quelques années où c'était un peu peau de chagrin. Et c'est vrai que là, voir des gens motivés, ça fait vraiment plaisir.
Chantal ?
Moi, je voulais poser une question aux organisateurs. Est-ce que le choix de la couleur jaune est symbolique pour les t-shirts ?
Pas du tout.
Ça a été très compliqué cette année.
En fait, si le t-shirt est à cette couleur cette année, c'est parce que nous avons voulu avoir un t-shirt réalisé en matière... de qualité recyclable et bio. Et donc, le choix de couleurs a été très limité parce que quand vous commencez à chercher des produits de cette qualité, il y a moins de couleurs que dans les synthétiques chinois, je vais dire. Et donc, on a choisi ce jaune parce que c'est une nouvelle couleur de la marque.
Oui, c'est important ça. Le développement durable reste au cœur du festival encore cette année.
Complètement, de plus en plus.
Avec les produits, avec tout ça.
Avec la bière qui est artisanale, avec les salades que nous allons proposer, qui seront réalisés avec des produits soit bio, soit de producteurs locaux. On fait le maximum pour arriver à avoir un festival de qualité, local et très écologique.
Authentique.
Voilà. Authentique, avec même les gobelets plastiques sont recyclables.
Mais ça c'est, sur, ça, c'est sur Bonijol, les produits bio. À Del Castillo, je crois que c'est pas des produits bio. Hein. Hein, il me semble.
Ça dépend qui gère le site.
Ah oui,
en fait,
c'est vrai, c'est que les gens qui tiennent le site.
Voilà. Je ne sais même pas s'il y a à manger d'ailleurs à Del Castillo, je suis pas sûr. À Bonijol, voilà, vous pouvez venir.
La guéguerre des buvettes a démarré.
Et lancé, ça y est. Ce monde associatif, 80 bénévoles, François Robin, c'est énorme, ça fait plaisir. Hein. On sait le poids du milieu associatif en Lozère et que les gens continuent à s'impliquer.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais de toute façon, le tissu associatif en Lozère, on le connaît, on sait ce qu'il vaut. Et voilà, et c'est vrai que depuis de nombreuses années...
Tu peux
Bruno,
non, vas-y, tu peux intervenir.
Non, mais c'est Bruno vrai qu'on a un tissu associatif en Lozère qui est énorme, de qualité. Et je crois que quel que soit le festival, quel que soit l'événement, voilà, les bénévoles sont au rendez-vous. Et c'est ce qui fait aussi la force du milieu associatif au niveau du département.
Et pour soutenir ce festival, il y a toujours un bracelet solidaire pour aller voir les spectacles. Tu peux nous rappeler les tarifs, Bruno ?
Alors, le bracelet solidaire, qui n'est pas un tarif, hein, c'est vraiment solidaire, c'est 15 euros pour voir tous les spectacles in durant les 3 jours, ce qui fait à peu près, de mémoire, 70 représentations. François, c'est toi qui...
Oui, c'est ça.
Plus les spectacles off, bon là, il n'y a pas besoin de bracelet. Et après, pour les personnes qui ne peuvent participer qu'un jour, on a aussi prévu un bracelet d'un jour à 7 euros.
Oui, on est plutôt autour même de 100 représentations de mémoire.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faut aller voir, François, si tu as quelques spectacles en tête ? Il faut tout aller voir.
Il faut tout aller voir, non, mais après, c'est vrai qu'on
à part
a...
Chantal, t'as pas un autre coup de cœur ?
Oui, bah Chantal, mais Chantal est bien connue aussi dans le milieu mandois, on va dire. Donc elle est, on l'a déjà vue à plusieurs reprises sur Mende, localement, voilà. Non, mais il faut le rappeler qu'effectivement, on a quand même aussi une grosse quantité cette année de compagnies régionales, notamment. Et c'est ce qui fait aussi l'évolution un petit peu du festival. C'est vrai qu'on allait chercher aussi des compagnies à l'extérieur, on va dire. Et là, c'est vrai que, ne serait-ce que sur l'Occitanie, je crois qu'on est autour d'une vingtaine de mémoire aussi, une vingtaine de compagnies régionales. Donc ça, c'est aussi une des forces du festival. Mais non, des coups de cœur. Alors sur le Huyn, moi j'ai Fleur, qui est un coup de cœur. Alors si vous voulez vraiment voir du déjanté, là vous allez voir du déjanté. Non, après voilà, j'ai pas forcément toutes les compagnies en mémoire, mais on a retrouvé en tout cas, je trouve, une programmation qui très éclectique, voilà, et qui faisait la force du festival et qui était nécessaire parce que les gens, voilà, pour ceux qui étaient pas forcément adeptes de la danse par exemple, et ben ils vont retrouver aussi voilà de la danse et c'est de la découverte, voilà. Il y a de la découverte, il y a des valeurs sûres, et puis bah, après voilà, il faut que les gens fassent leur festival eux-mêmes. Le heure par heure les aide bien évidemment dans ce choix, et je crois que voilà, on sera à la fin de ce festival avec des retours à mon avis très 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 positifs.
Justement, ce programme qu'on peut retrouver sur tous les sites, également à la maison du festival. Elle est située où cette année, la maison du festival?
Alors la maison du festival est située à l'ancienne librairie Genevesse pour les anciens, Tondu pour les plus jeunes, qui se trouve, je crois, rue de la Liberté.
C'est ça.
Ouais. C'est ça.
Et avec Sébastien qui va vous accueillir avec ses petites assistantes, toujours dévouées et prêtes à renseigner et à rendre service.
N'hésitez pas à y aller, bien sûr. Chantal, vous avez vos horaires en tête ou pas du tout ?
Oui, je me suis rendu.
Allez, il faut les donner là, c'est le moment.
Tous les jours, donc à 15h, place Volterra, ça dure une heure. Et ça s'appelle « Ma grand-mère est une sorcière ».
Merci beaucoup Chantal d'être venue. Merci beaucoup Bruno et François.
Merci.
Peut-être qu'on se reverra pour un nouveau plateau dimanche pour faire un point avant la fin du festival. Et
avec
en attendant...
la bouteille de champagne.
Voilà, exactement.
Je peux être là alors.
En attendant, allez, une pause musicale. On retrouve d'autres artistes de suite. C'est parti.
Saindo do samba na hora que você chegou e disse que eu não posso ir embora pra gente brincar de amor. Fiquei até o romper da aurora. Agora o samba acabou. Comigo ajoelha, tem reza, porque você se ajoelhou. É menina, é menina.
A hora é essa.
É
eu estava saindo do samba na hora que você chegou e disse que eu não fosse embora pra gente brincar de amor. Fiquei até o romper da aurora, agora o samba acabou. Comigo ajoelha até e reza pra que você se ajoelhou.
Et allez, on est de retour pour ce plateau radio en direct de l'école Jean Bonijol pour la 14e édition du 48e de rue, avec de nouveaux artistes, la compagnie Tout en Vrac qui joue dans cette place, sur cette place avec Charlotte et Noémie. Bonjour.
Bonjour.
Et on a également François des Nouveaux Dossiers, le groupe qui joue ce soir. Salut François.
Salut.
Et on a Loïc qui nous rejoindra après sa sieste d'ici à quelques instants. Charlotte et Noémie, le spectacle à voir, le spectacle que tout le monde attend. Burning Scarlet.
Oui.
Hein, je suis pas sympa. Hein. Ah, je suis pas sympa, Noémie. Tu savais que j'allais dire ça. Alors, Burning Scarlet qui était programmé. Et là, pour l'instant, pour ces deux jours, il y a un petit souci. On a une des comédiennes qui est cas contact, qui se fait tester tous les jours, qui pour l'instant
toutes
est négative. Toutes les heures. Et qui pourra peut-être vous rejoindre dimanche.
Dimanche, on espère. Ouais.
Voilà, pour les représentations de dimanche. Et en attendant, on n'a pas quand même tout perdu parce qu'on va pouvoir retrouver la cuisinière, c'est ça?
Exactement.
La cuisinière, c'est toi qui joues, Noémie, et Charlotte, tu es
metteur en scène.
Parfait, mais vous allez pouvoir m'en parler comme ça, c'est formidable.
C'est ça.
Alors la cuisinière, qu'est-ce que c'est la cuisinière?
Qu'est-ce que c'est la cuisinière? La cuisinière, c'est un duel entre une jeune femme et sa cuisine. Va-t-elle réussir à dompter cette cuisine pour réaliser la tarte choco-caramel meringuée qu'elle veut faire pour son mari?
D'accord, et on va pas le dire hein, si elle
non,
réussit.
Non, on va pas dire ce qui se passe à la fin.
C'est un solo?
Oui, c'est un seul en scène en fait.
C'est un seul en scène.
Parce que finalement, non, c'est pas un vrai solo. On est quatre.
On est quatre en tournée, ouais.
D'accord. Que font les autres du coup?
Bah alors, il y a Nicolas Granet et Bénédicte Jacquier qui ont construit le décor et qui sont là de toute façon aussi pour le faire fonctionner en plus. Et le réparer de temps en temps.
On est sur un seul en scène avec vraiment beaucoup de techniques, beaucoup de t'es sur un duo en fait quelque part avec avec ton décor. Du coup, nous on est là derrière pour assurer que le décor soit bien.
D'accord. C'est quoi? C'est humoristique? C'est quoi comme type de spectacle? C'est un spectacle à thème, à message?
C'est un carnage culinaire. Alors, est-ce qu'on peut dire oui, c'est humoristique? On ne va pas dire que c'est un drame. Mais l'idée, c'est un numéro, une 35 minutes de burlesque avec de la manipulation d'objets, avec du jeu, avec de la cuisine.
Ok, on ressort de là, on sait cuisiner, ou pas?
Eh bien, vous verrez.
Vous venez de Grenoble, c'est ça, compagnie créée en 2004?
Tout à fait.
D'accord. C'était un de vos premiers spectacles, La Cuisinière, vous le jouez depuis quand?
La Cuisinière, on le joue depuis 2014. On l'a créé en 2014 et on le joue depuis. On a fait la 300e dimanche. On est ravis.
Bien.
Et
ouais,
c'était la première de la
c'est
saison.
Une belle aventure.
Donc on commence la saison 2021 bien tard pour nous, mais en tout cas c'est la première de la saison et la 300e du spectacle. Et on est mais ravis de pouvoir finalement le jouer quand même, amende pour les 48e de rue.
C'est quel public?
Tout public.
C'est tout public.
Ah oui, les petits. D'accord. Comme les grands.
Ouais.
Parce que Scarlett, c'était un peu plus les. Pas trop pour les petits. Hein.
C'est moins pour les enfants. Je crois que le spectacle est à partir de 8-10 ans.
Oui, mais on a déjà eu des plus petits qui
sont venus. On a déjà eu des plus petits et qui ont apprécié. Après, sur la cuisinière, on est vraiment plus sur un tout public des tout petits jusqu'à
Jusqu'à pas d'âge.
77 ans plus, beaucoup plus. Mmh.
On va dire un mot quand même de Scarlett, oui. Parce qu'il va se jouer dimanche, donc il n'y a pas de raison de ne pas en parler. C'est vraiment un spectacle d'actualité. Oui. Vous l'avez écrit quand ?
On l'a écrit, on a commencé à le bosser en 2018 et on a été vraiment accompagnés avec l'actualité.
Oui, c'est donc vous avez été un peu en avance.
Complètement. Ouais. On a été portés l'été dernier avec la polémique autour du retrait d'HBO d'Autant en emporte le vent et de qu'est-ce qu'on fait d'Autant en emporte le vent ? Est-ce qu'on le brûle ? Est-ce qu'on le jette aux orties ? Est-ce qu'on continue à raconter l'histoire ? Une histoire qui, pour certains... Beaucoup de gens n'ont pas vu le film, mais beaucoup de gens l'ont vu avec leur mère, leur grand-mère, leur père, pour ma part. Et qu'est-ce qu'on fait de ce film qui a quand même des valeurs racistes, sexistes et un peu compliquées ? Mmh. Et ben on verra ça dimanche.
Voilà. Et c'est pas le seul film que vous évoquez dans ce spectacle ? Non, ou si ?
Ça reste le. On se concentre vraiment sur ce film-là pour parler de tout ça, de qu'est-ce qu'on fait de nos classiques.
D'accord.
Et après, le pitch est un peu coquin. Sur le programme.
D'accord, bah, on va inviter les gens à aller voir. Super, mais écoutez, je ne vous garde pas plus parce que je sais que vous avez un montage. Faites pas trop de bruit, mais...
Non, hein, tout doux, tout tranquille.
On va essayer. On rappelle les horaires, Jean Bonijol, vous jouez à quelle heure ?
19h aujourd'hui.
Ouais.
Je dis pas de bêtises, non, demain c'est 18h30 et dimanche c'est 18h.
Il me semble que tu as tout juste.
Je ne sais pas, je prends un programme d'habitude, mais je suis arrivé un peu tard là et je n'en ai pas pris, mais on va en récupérer.
On arrive sur les chapeaux de roue aussi.
J'ai demandé à mon assistante Audrey de m'amener un programme, s'il vous plaît, assistante. Merci bien. Allez, merci.
Merci beaucoup.
Allez, à bientôt, on va faire un changement. On va laisser la place, on va faire venir Loïc qui est par là. Et nous avons également un invité surprise qui est Mime Burlesque, avec qui on a pu discuter un peu hier soir, mais qui va parler pour cette interview. On va commencer par les nouveaux dossiers. C'est le concert de ce soir, hein, on est d'accord ?
Tout à fait, ouais. À 22h30.
À 22h30, merci Audrey. À l'école Jean Bonijol. Je vous laisse vous présenter ce groupe de musique.
Ah, la présentation n'est pas facile déjà. Bonjour, je m'appelle donc François. Et moi c'est Loïc. Voilà, on est les deux paroliers et compositeurs du groupe Les Nouveaux Dossiers. Et les deux chanteurs également. Mmh. Le groupe est composé également de Pierre à la technique et au cuivre, au trombone, à la trompette et à l'harmonica. De Thomas aux guitares électriques et de Carole à la batterie.
Voilà, le groupe s'est formé en 2018. À la base, on était un trio avec donc Carole qui faisait les percussions et Loïc et moi-même donc accordéon, basse, guitare, piano. Et depuis, en fait, au gré des rencontres, on a pu donc étoffer un petit peu les instruments sur scène pour arriver à un bon cocktail de genres différents. C'est très difficile de donner un style au groupe. Souvent, on nous demande si c'est un exercice on essaie de s'y risquer tout ça. Alors, la première fois où on nous a défini, c'était le technicien qui a enregistré notre premier album, disait qu'on faisait du
Punk Manouchka.
Voilà, c'est vrai qu'en fait, on en a un qui est vraiment issu du blues rock. Donc, c'est Thomas aux guitares. Loïc, c'est un petit peu de tout, de la musique classique avec des influences aussi de rock, chansons françaises. Ouais. Moi, c'est chansons françaises. On a Pierre qui est issu de l'électro et Carole
du reggae, de la samba.
Okay. Voilà, c'est un beau mélange. vous écrivez composition, on est d'accord. Hein,
oui.
Vous écrivez tout de A à Z, tout ensemble. Comment ça se passe vu que vous chantez à deux, vous écrivez les paroles à deux. Il y en a un qui écrit, l'autre qui écrit la musique.
Généralement, soit François, soit moi, on arrive avec un squelette musical, donc une suite d'accords, une grille d'accords, avec une idée en tête bien précise et un texte aussi chacun de notre côté. Et puis c'est ensemble qu'on fait les arrangements quand on se fait des sessions de répétition à droite à gauche, quoi.
D'accord, ça m'intéresse. La musique avant le texte.
Pour ma part, oui, toujours.
Ouais, c'est une question que je me pose toujours. Est-ce qu'on écrit la musique avant le texte ou le texte avant la musique ?
Ça dépend.
On chante en yaourt et après on se dit tiens, on va... c'est ça ?
C'est ça. Ça dépend des gens. Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle. Moi, par exemple, tu vois, c'est ensemble, c'est les deux, mais c'est vrai que je pars d'une idée. Après, je vais chercher en fonction de l'idée une suite d'accords et des mélodies qui vont inspirer le reste. Et après, la mélodie peut être amenée à changer, la grille d'accords aussi, en fonction du texte, parce que des fois, il y a des intonations, des choses qu'on se dit j'aimerais bien l'accentuer. Donc, ça peut changer effectivement la grille d'accords au fur et à mesure de la composition. Et même lorsqu'on arrive après avec qu'on présente le squelette au reste du groupe, parfois il peut y avoir des idées qui vont émerger et tout ça. Et comme on n'est pas égoïste, hein, c'est le but, c'est aussi d'être tous ensemble, d'amener notre pierre à l'édifice. Et donc finalement tout peut être modifié en fonction, même entre la version studio des fois et la version live, il peut y avoir, les chansons évoluent au fur et à mesure des années et peuvent aussi évoluer et changer.
Vous venez défendre un nouvel album là
C'est ça, oui, c'est un nouvel album qui est sorti le 24 avril dernier, donc s'intitule Vous pouvez tous crever. Voilà. Okay. C'est du double sens. C'est un peu une signature qui est propre à nos textes et à notre musique. C'est le double sens, voire le triple sens.
Ouais. C'est les chansons qui... Il y a le C qui est tombé sur la pochette.
Exactement, il y a le C qui est tombé sur la pochette. Donc on peut lire sur l'intitulé du garage, parce que c'est un garage qui est représenté sur la pochette de l'album. Vous pouvez tous rêver. Mm. Mais on... voilà, c'est la petite.
On aime beaucoup jouer sur les contrastes, hein, autant sur que la musique que sur l'image qu'on renvoie sur scène. Parce que parfois, on nous dit souvent ouais, vous avez des chansons tristes, vous avez des chansons sombres. Mais c'est vrai que nous, on est tellement plein d'énergie sur scène et qu'on nous dit souvent qu'on aime bien jouer avec ça, jouer avec les contrastes.
Ouais. Vous venez d'où tous ?
Alors justement, on vient tous un peu d'endroits différents, puisque le Nouveau Dossier, c'est un groupe qui s'est créé dans le cadre d'un village vacances. On était animateur dans un camping, en fait, sur l'île de Ré. Donc le groupe, il s'est formé sur l'île de Ré. Donc on dit qu'on est basé en Charente-Maritime, à La Rochelle. Mais vu qu'on était saisonniers, on vient tous d'endroits différents. François est du Nord, moi j'ai grandi en Bretagne, Carole aussi, Thomas est de Nantes, et Pierre a grandi en Vendée. Donc,
okay.
Mais vu qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'une saison, bah...
D'accord.
Et puis on a beaucoup bougé, pour la petite histoire, moi j'ai vécu 3 ans à Mende, du coup.
Ah bon ?
Et voilà, donc je suis déjà venu jouer au 48e en tant que danseur à l'époque.
Ok, voilà. Ouais, génial. C'est votre premier album que vous venez défendre ou il y en a eu d'autres ? C'est le deuxième.
Le premier, c'est un EP, un EP de 5 titres, qui est sorti en avril 2020.
Voilà, d'accord.
Donc juste un an avant.
Ok. Vous êtes signé par une maison ou vous êtes en autoproduction ?
Alors, on est totalement en autoproduction. Ouais. On fait tout, absolument tout nous-mêmes.
D'accord.
De la promotion,
à la programmation,
booking, à la programmation, diffusion. À la diffusion, à la communication.
Ok, pas trop compliqué.
À la technique.
Ça vous donne une liberté, j'imagine.
Ça nous donne une certaine liberté. Et puis aussi, on apprend beaucoup. Parce que c'est vrai que le groupe, finalement, est assez récent. Et en avançant, on découvre, on rencontre des personnes qui nous conseillent bien. Et on a toujours eu la chance d'être aussi très bien entouré. Par exemple, pour les albums, on a un dessinateur qui est un ami également, qui nous réalise toutes les pochettes d'albums. On a des amis photographes. Donc, on a la chance d'avoir un réseau qui nous a permis aussi de développer nos compétences au fur et à mesure. Et puis, l'envie d'avancer et de...
D'avoir envie,
c'est ça. On pourra retrouver vos albums ce soir pour
bien sûr, tout à
sur
fait,
place
ouais, sûr,
ouais. Pour les gens qui veulent venir. Vous avez un site internet un peu
Facebook, Instagram. Le site internet est en cours de
fabrication, de création.
Mais okay. On est disponible sur Instagram et Facebook.
On marque ouais. Les nouveaux dossiers, on vous trouve. Des nouveaux dossiers.
Ouais. Ah oui, sans problème.
On est écoutable également sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Music. Bandcamp et sur YouTube évidemment, et on a 6 ou 7 clips qui sont sortis là, combien ?
Ouais, bah donc on a eu la chance de profiter de la crise en fait pour réentrer en studio, c'est pour ça aussi qu'on a les deux albums sont si rapprochés et puis on a profité pour faire des clips du coup.
Ouais. Voilà. On en a 6 ou 7 sur notre page YouTube donc à découvrir.
Super, mais on invite tout le monde à venir les voir avant de venir vous voir en vrai ce soir.
Voilà.
Super. Merci beaucoup messieurs.
Merci beaucoup. Merci à toi.
Je vous laisse vaquer à vos occupations. On va faire un changement de plateau. On va accueillir deux autres artistes. En attendant, on a notre ami Mime Burlesque qui va parler pour une fois à la radio, mais qui est habitué. Hein, c'est pas la première.
Non, c'est pas la première fois.
Bon, comment ça va ? Ça s'est bien passé ce matin ?
Ah ouais, super, vraiment.
Ouais, tu as ouvert le bal un peu du 48e,
il me semble.
Et
c'est ça, et le public était au rendez-vous, et ça fait plaisir.
Bon, il n'y avait pas d'arbres au milieu de la scène, ça allait ?
Est-ce que je dois en parler ?
Est-ce qu'on doit en parler ? Ouais, on peut en parler. On s'est rendu compte qu'il y a un arbre qui a poussé au milieu de la scène il y a quelques jours.
Alors, c'est ça. Voilà. Enfin, il y a un an, en fait, mais personne ne l'avait vu. C'est l'arbre,
il y a un an.
L'arbre
c'est
qui cache le festival.
Bon, c'est bien passé, ouais, le public a été au rendez-vous.
Ouais, génial, vraiment, quoi. Pour un 10h du matin, un vendredi, ça fait plaisir.
Bon, et il faisait beau en plus, faut le dire, parce que c'est pas toujours le cas en Lozère.
Voilà, il faisait beau, on peut même dire qu'il faisait pas trop chaud, c'est la première fois que je finis pas en sueur, avec le maquillage qui dégouline, donc jusqu'ici tout va bien.
Bon, ben on va espérer que ça continue. Que dire sur ce spectacle ?
Que dire sur ce spectacle ? C'est un spectacle de mime burlesque, donc. Pourquoi du mime burlesque ? Parce que c'est pas vraiment du mime pur et c'est pas vraiment du clown non plus. Donc on vise entre les deux et on tombe sur du mime burlesque.
Ok. Le message que tu essayes de faire passer, s'il y en a un ?
Oui, bien sûr, il y a un message, c'est d'une profondeur absolue. Le message, c'est l'incapacité de l'humain à appréhender l'infini.
Ah, voilà.
Donc c'est un
bien,
message
ça.
Qu'on ne perçoit pas tout de suite quand on voit le spectacle. On a plutôt l'impression que c'est du divertissement et on rigole. Mais si on creuse un petit peu, on peut voir ça.
Ça vous parle, la compagnie Zest ?
Absolument,
ce thème.
Ouais.
Hein, voilà la compagnie Zest qui vient de nous rejoindre. Merci de nous retrouver ici pour le plancher des vaches, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Bonjour.
C'est une petite jauge ou pas pour toi ?
Moi j'aime bien quand c'est intime. Donc là, ça tombe bien. C'est une petite jauge. Ce matin, il y avait, je ne sais pas, 30-40 personnes peut-être. C'était très sympa du coup, Les gens étaient très concentrés pour le spectacle. Donc c'est un spectacle où je ne parle pas, bien sûr, puisque c'est du mime, mais il y a une bande musicale qui a été créée cet hiver exprès pour le spectacle. Et ça marche super bien, amende en tout cas.
Ouais. C'est pas grave, c'est mon téléphone, mais en fait, comme c'est mon téléphone qui me sert à diffuser par Internet, je ne peux pas l'éteindre. Je ne sais pas comment faire pour qu'il ne sonne pas.
Ça bon, y est.
Voilà, ça y est, il sonne. Pourquoi du mime
Alors, pourquoi du mime?
C'est spécifique.
Ouais, c'est une vraie question, parce que je trouve ça hyper beau, en fait. Et parce qu'on on peut parler, c'est, surtout à la radio, c'est pratique. Mais quand on fait de la scène, quand on fait du théâtre... On se rend compte que si on veut montrer des émotions ou faire passer quelque chose, vaut mieux pas parler des fois. C'est en trop. Le corps, il exprime beaucoup. Le visage, il exprime. Le silence, du coup, exprime beaucoup de choses. Les immobilités. Alors là, bon, il n'y en a pas tout le temps parce que je m'agite pas mal. Mais je trouvais que c'était intéressant comme travail.
Solo, pourquoi ?
Solo, pourquoi ? Parce qu'au départ, c'est un duo.
Parce que j'aime pas les autres.
Non, enfin, au départ, c'était un solo. Alors, c'est une raison pratique. Ça me permet de me déplacer facilement et de choisir les dates. On a essayé en duo avec une pianiste. Parce que l'inspiration du spectacle, c'est quand même les films muets des années 20 et le ragtime, la musique, le ragtime. Donc, on a fait un duo avec une pianiste. C'était hyper drôle. Mais il fallait trimballer un piano à chaque fois et elle y tenait. Donc, le duo, ben, on a arrêté. Et je préfère être en solo avec une forme légère, facile à adapter. Ça ne dure que 35 minutes. Mmh. Et voilà.
Et comme ça, tu n'as pas de problème de personnes qui travailleraient avec toi, qui sont cas contact et dont on attend le résultat des tests, comme la compagnie Tout en Vrac qu'on a eu à l'instant.
On a eu exactement ce même problème pour une résidence au début de l'hiver. Et c'est là où on s'est rendu compte que ça commençait à être compliqué. Quoi.
Ouais, et oui. Que le plancher des vaches, la compagnie Zest, ils vivent tous ensemble. Donc, dans tous les cas, s'il y en a un qui est qu'à contact, les autres le sont aussi. C'est ça ?
C'est à peu près ça, oui. Hein ?
C'est pas loin, ces derniers temps.
Voilà. Et vous, c'est pas des solos. Hein. Vous êtes combien ? 5 ?
6.
6.
Voilà. Hein ?
Un petit nouveau ou c'était... J'ai mal compté, j'ai dû mal compter alors.
Ah non, on est bien 6.
D'accord. Alors, le plancher des vaches, expliquez-nous, ça parle de quoi un peu cette pièce ?
Alors, ça a été écrit dans les années 2000 par Eugène Durif. Et c'est un peu un constat sur la campagne, un peu un état des lieux de la campagne et de l'agriculture aujourd'hui, enfin du coup dans les années 2000, et on s'est rendu compte en lisant cette pièce que c'est exactement les mêmes problématiques aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment un tour des gens qui vivent là-bas, des gens aussi, des citadins qui vont là-bas, et justement avec cette histoire de confinement, des gens de la ville qui sont beaucoup allés dans les campagnes. On s'est aussi rendu compte de ces deux mondes qui se sont un peu séparés, mine de rien, alors qu'avant tout était plus ou moins lié. On avait tout le temps de la famille qu'on allait souvent voir à la campagne, et beaucoup moins maintenant.
Vous habitez où ? Vous habitez à la campagne, du coup ?
Moi, j'habite à la campagne. Il y en a d'autres qui ont grandi à la campagne. Mais
il y a aussi des purs citadins.
Il y a aussi des purs citadins.
D'accord. Et là, vous habitez où tous en ce moment ? À quel endroit ?
Entre Montpellier et l'Audève. Oui.
D'accord.
Dans le sud de la France.
Ok, oui, c'est pas vraiment la campagne. Habitant en Lozère.
Oui, alors c'est sûr que là, on est vraiment bien dans le thème, c'est génial.
Ok. Eugène Durif, hein, qui est connu, hein, qui était journaliste au départ, quel beau métier, qui a écrit de la poésie, des récits, des nouvelles, et qui a écrit pour la scène et la radio aussi. C'est qui a rencontré cet auteur en lecture et qui a dit aux autres, tiens, mais il faut que je leur fasse connaître cette pièce, il faut qu'on la joue ? Ou si vous l'avez découverte ensemble.
Et ben, c'est justement quelqu'un qui a grandi à Mende et qui fait partie de la compagnie et qui a ramené ce texte dans justement une résidence qu'on a fait pour trouver un peu l'objet de notre travail. Et donc, on est tombé un peu amoureux de cette scène. Ça nous a tous beaucoup parlé, en fait, cette pièce, à chacun d'entre nous, avec notre vécu différent sur la campagne.
Alors, il y a pléthore de personnages.
Hein. Ouais, oui, 10.
Il y en a 10. Oui. Donc, vous en jouez plusieurs.
Oui.
Il y a quoi, on retrouve qui comme, quel type de personnage ?
Alors,
Il y a l'auteur de la pièce, donc Eugène Durif quelque part, mais qui s'appelle l'auteur dans la pièce, qu'on suit tout au long de la traversée du spectacle et qui nous emmène un petit peu dans ses cauchemars et sa prise de conscience sur justement ce monde-là de l'agriculture. Il y a également un couple de, d'agriculteurs, un agriculteur, une agricultrice. Il y a un vieil agriculteur qui parle avec l'accent et tout ça, qui est interviewé par une femme, donc une intervieweuse également. Et on a aussi un trio de citadins plutôt burlesques qui viennent avec leurs idées reçues et leurs petites chansons sur ce qu'ils pensent pouvoir être de la campagne. Et enfin, on a une gaveuse de canards, Fernande, qui vient nous parler de son métier, ainsi qu'un personnage assez mystique, assez mystérieux, le Ludion intempestif, qui s'appelle, et qui est, comment parler de lui simplement
un peu une projection de la petite folie de l'auteur, justement, qu'il aurait vu dans ce personnage-là. Mm-hmm.
J'avais cru lire qu'à la base c'était pour deux hommes et une femme cette pièce.
Oui, exactement.
Comment on la transporte sur six personnes? Ça change rien en fait?
Ça change pas grand chose. Justement, on s'est même demandé comment ils avaient fait eux pour faire dix personnages qui se suivent très rapidement.
Très rapidement.
Finalement, et qui sont très différents aussi. Donc c'est plutôt le contraire. Nous, on a plutôt trouvé ça plus facile du coup pour nous qui étions six que pour trois comédiens.
Vous la tournez depuis longtemps cette pièce ou c'est une nouveauté ?
C'est avant-hier.
Ah, génial.
Voilà.
Ça, on va pouvoir voir quasiment une première alors.
Presque.
Ouais. Bon, mais écoutez, super. Est-ce que vous avez vos horaires en tête tous là ?
Oui.
Allez, on les donne. Alors, le plancher des vaches, la compagnie Zeste, vous jouez quand ?
On jouera sur la place Urbain 5, aujourd'hui à 18h, samedi à 18h, et dimanche à 15h et à 19h.
D'accord. Notre cher ami.
Et moi, je joue sur la place Estoupe, le fabuleux cirque d'Annecy. Alors, tous les jours à 10h le matin, c'est pour les lève-tôt, c'est le mieux. Et à 17h10 exactement.
Eh bien, on invite tout le monde à venir nombreux à voir vos spectacles. Je vous remercie. On va s'arrêter pour laisser les balances des groupes de musique et des spectacles qui sont derrière nous, qui attendent patiemment de pouvoir commencer leurs essais. Merci.
On vous rappelle
le 48e jusqu'à dimanche non-stop sur toute la ville, Bonijol, Del Castillo. N'hésitez pas à venir à Bonijol. Il y a une super buvette. Vous demandez Vincent à la buvette. C'est lui qui sert. Uniquement lui. Vincent. Hein. Allez, on se retrouve demain, plateau radio, je crois que c'est à 14h. En attendant, on se quitte en musique, c'est parti, bye.